les moments musicaux de l'Académie Clémentine. Alors pour mémoire, ces moments musicaux sont destinés à rediffuser à l'antenne d'RCF les concerts donnés par l'Académie Clémentine en l'église Saint-Georges de Cannes. Mais entre deux concerts, nous avons des invités qui nous font part de leur coup de cœur. Le mois dernier, nous recevions Aurore Busser et comme nous étions loin d'avoir épuisé les ressources de son cœur et de ses préférences musicales, nous l'avons invité à revenir nous parler de ses coups de cœur aujourd'hui. Donc, bonjour Aurore Busser.
Bonjour.
Et elle est venue accompagnée de Nicole Sabag, secrétaire de l'Académie Clémentine, que nous sommes également honorés de recevoir aujourd'hui.
Bonjour. Voilà.
Alors, nous évoquions la dernière fois comme un de vos coups de cœur les plus récents, Jordi Savall, que vous avez rencontré, je crois, à Cannes récemment.
Mmh. Oui, je l'ai rencontré au
Midem
Classique. Oui, au Midem Classique, le soir où il recevait un award d'honneur pour un disque assez extraordinaire qui était axé sur des... travailler avec des instruments anciens et tout à fait... et de la Méditerranée centrale, et des poèmes de langues pratiquement inconnues, des langues anciennes, hébreuses. Enfin, c'était absolument étonnant.
Et donc, il vous a offert un...
Il m'a offert son dernier... son dernier qui vient de sortir, il n'est peut-être même pas encore dans les bacs, son dernier CD, qui est un très très bel album, qui s'appelle Estampi et danse royale
de Philippe le Bel.
Le roi Philippe le Bel, du temps du roi Philippe le Bel. Je ne sais pas si Philippe le Bel dansait devant les gibets qu'il installait pour les Templiers, mais enfin bon. Enfin, c'est une œuvre, ce disque, il a fait œuvre d'érudit, il a beaucoup de recherches, avec des instruments absolument étonnants. C'est très pur, c'est très intéressant, c'est à la fois une curiosité et un plaisir pour les oreilles.
Alors, lors de notre dernière émission, nous avions écouté une danse. Cette fois-ci, nous écoutons une estampe.
Oui, alors ça s'appelle Estampi. Estampi Real, la septième. Nous écoutons la septième. Alors, les instruments sont assez étonnants. Vous avez la vielle à roue, le dulcimer, le psaltérion et la cornemuse pastorale, la cithare, des percussions et une cloche.
Alors, la cloche, on sait ce que c'est, mais le psaltérion...
Le psaltérion, c'est un instrument très ancien à cordes.
Eh bien, écoutez,
je voulais juste dire une petite chose, c'était l'importance du travail de mémoire, parce que ces instruments, finalement, on ne les entend plus beaucoup. Et...
Oui, mais ça, Jordi Savall, c'est sa spécialité.
Oui, c'est important.
C'est un spécialiste, oui, c'est sa vie.
Et voilà.
C'est le résultat de ses recherches. Le résultat de ses recherches musicologiques, comme les danses et les estampis sont le résultat de ses recherches à la Bibliothèque nationale, où il a découvert les manuscrits de ces pièces-là.
Voilà, par contre, puisque vous aimez Schubert, je crois que n'avoir jamais entendu l'arpeggione fameux, là. Est-ce qu'on en a reconstitué un? Non, je ne crois pas.
Non, je ne pense pas.
Très bien. Alors nous écoutons Jordi Savall, estampi du roi Philippe le Bel. Eh bien, c'était Jordi Savall qui nous évoquait Philippe Lebel, les estampilles et les danses de son temps.
Moi,
je vous t'écoute.
Non, j'avais envie de revenir au XXIe siècle et demander à Aurore Bussert, on sait que vous êtes critique musicale et artistique dans notre quotidien favori, et je sais que ce mot de critique, vous ne l'aimez pas, je crois, parce que...
Non.
Ça ne veut pas forcément dire du mal. Critique, c'est ça pour
non,
vous
non, c'est ce que croient la plupart des gens. Les gens s'imaginent que critiquer, ça veut dire du mal. C'est pas du tout ça. En réalité, critiquer, c'est apprécier. Moi, je ne fais pas de critique. Je dis simplement ce que je pense simplement de ce que j'entends. Et j'essaye de comprendre ce qu'il y a, de voir si l'interprète, que ce soit le danseur, que ce soit le comédien, que ce soit le musicien, a compris ce que a été capable de transmettre ce qu'avait voulu écrire l'auteur. Voilà.
Et vous vivez comment le spectacle, que ce soit le concert ou le théâtre, pendant qu'il se passe? Est-ce que déjà dans votre tête, vous imaginez, vous commencez votre article ou ça vient le lendemain ou...
Non, j'y pense pas trop. Ça viendra comme ça. Non, je sais ce que je vais dire, effectivement, quand je sors de là. Mais vous savez, le plus dur, c'est de commencer. Je sais jamais très bien comment commencer. D'abord, je n'ai jamais beaucoup de place. Ensuite, il faut accrocher les gens dès le début. C'est le plus difficile. Une fois que j'ai commencé, ça va très bien.
Et puis, je m'étonne toujours de voir à quel point vous gardez cette jeunesse extraordinaire. Vous n'êtes pas blasé.
Non,
parce
pas
que
du
vous
tout.
Vous êtes au spectacle 5 soirs sur 7.
Oui, absolument.
Et vous trouvez toujours en vous des ressources d'enthousiasme. Vous nous faites aimer.
Oui, c'est-à-dire que j'essaie de... J'essaie de voir quel travail a été fait derrière tout ça. Parce que moi, j'ai vécu dans une famille où on travaillait énormément. Mon père était directeur de conservatoire, ma mère était cantatrice, mon grand-père maternel était professeur de mon père, était professeur d'académie aussi. Alors, ils étaient tous de concertistes. Je vois, par exemple, maman a été une des premières à faire la télévision, aux essais. Moi, elle m'emmenait partout quand j'étais petite.
Vous êtes née dans la marmite, en quelque sorte.
Oui, absolument. Ah, oui. Puis même dans la parenté, j'ai des gens qui... par exemple, dans la parenté, j'ai Théophile Gautier, quand même un grand poète, qui est le librettiste de Gisèle. J'ai Victorien Sardou, qui est quand même l'auteur de Madame sans gêne et de la Tosca. Enfin, j'ai tous ces gens-là, donc ça doit être dans les jeunes quelque part, je ne sais pas. Et puis il y a des acteurs, il y a des danseurs, il y a des musiciens, il y a des chanteurs. Et toujours au sommet, alors il y avait tout ce qu'il fallait. Et alors, partant de là, tous les amis, c'était les grands compositeurs, c'était les grands danseurs, c'était les grands chanteurs, c'était tout ce qui était au plus haut niveau, quoi. Voilà. Alors voilà, alors je sais comment on travaillait, je sais qu'on travaille beaucoup, et je sais qu'on travaille beaucoup souvent depuis qu'on est tout petit. Alors évidemment, je ne me laisse pas trop avoir par les gens dont on sent qu'ils n'ont pas fait grand-chose.
Oui, j'allais dire, vous êtes toujours un petit peu au deuxième degré, vous allez au-delà de ce qui se passe, vous allez derrière le rideau un petit peu,
et ça c'est... Ça, et jamais je n'irai descendre en flamme quelqu'un dont je sais qu'il a travaillé comme un fou, mais pendant des années, même s'il se trompe. Alors, ils peuvent se tromper aussi.
On a fait un petit intermède
voilà.
Le contemporain d'Aurore.
J'ai cru comprendre que votre souci était la promotion des jeunes talents. C'est-à-dire que,
oui, enfin, ça a toujours été, parce que moi, je viens de l'édition. Enfin,
oui, alors vous êtes responsable de deux revues aux éditions du Pavois.
Oui, oui. Voilà. Non, d'une revue.
D'une revue.
Une autre à laquelle j'ai collaboré, mais une revue. Mais j'ai toujours... Alors, évidemment, dans l'édition, qu'est-ce qu'on fait? On lit des manuscrits et on voit un petit peu ce que ça vaut. Et moi, quand j'étais là, il y avait beaucoup de jeunes qui commençaient à écrire. Et j'avoue... que c'est de là qu'il m'avait venu le goût de m'intéresser à ceux qui commencent. Et moi, ils avaient le même âge que moi. Et ce qui est très, très drôle, c'est qu'il y a de grands écrivains qui ont maintenant le même âge que moi, qui sont devenus directeurs de maisons d'édition, directeurs de collection et tout ça. Et ils me disent, mais écrivez ce que vous voulez, on a un tel souvenir de vous, que quoi vous écriviez, on le prend, on le publie. Je trouve que c'est très gentil.
Une question me vient, vous, faut que vous commenciez, faut que vous rédigiez vos mémoires, non? Vous avez des choses formidables à dire, non?
Non, j'ai une idée, mais...
Ça vous tente pas?
J'ai une idée d'écriture, mais je ne peux pas. J'essaye de m'arranger tout ça dans ma tête, parce que ça ne sera pas des mémoires comme tout le monde, parce que tout le monde écrit ses mémoires.
Non, mais.
Il y a sans doute des choses intéressantes.
Oui, voilà.
Non, mais je ferai sous un angle qui n'a peut-être pas été fait.
Toutes ces personnes que vous nous avez citées il y a 5 minutes. Que...
Oui, il y en a encore
pas. Il y en a beaucoup qu'on n'a pas cité.
Il y en a beaucoup qu'on n'a pas cité. Puis, ça continue. Par exemple, au MIDEM, j'ai eu la chance de retrouver une de mes grandes amies, qui est une des plus grandes cantatrices du siècle, c'est Christa Ludwig, qui a reçu son MIDEM d'honneur. Là, voilà. Des choses comme ça, ça m'a fait plaisir. Enfin, je la vois souvent, remarquez.
Elle habite la région, je crois.
Non, plus maintenant. Elle est partie parce qu'elle a été cambriolée, elle en a eu assez.
Voilà, alors nous allons revenir à la musique, un autre de vos coups de cœur, Mozart. Et lorsque dit Mozart, clarinette, vous avez toujours. Oui. Alors est-ce qu'il y a une raison pour ce goût, pour ce quintet avec clarinette?
Oui, je le trouve extrêmement romantique.
Eh bien écoutez, on va l'écouter tout de suite. Alors le Larghetto.
Et puis il chante. Voilà.
Larghetto, deuxième mouvement du quintet avec clarinette de Mozart.
Thank you.
Le quintet pour clarinette et cordes de Mozart, Larghetto, deuxième mouvement. Alors, Aurore Busser, nous avons évoqué vos parents rapidement tout à l'heure, mais vous m'avez raconté que quelque chose d'assez extraordinaire en ce qui les concerne, c'est qu'ils se sont connus quand ils avaient 12 ans et 6 ans, et que votre papa a dit « ça y est, c'est celle-là que j'épouse », et ça ne s'est pas démenti.
Oui, oui, ils ont vécu toute leur vie ensemble, ça a été merveilleux, ils ont gardé une extraordinaire jeunesse. Je suppose que nous en avons hérité, mon frère, ma sœur et moi.
Et ils se sont mariés 11 ans plus tard, donc il avait 23 ans et elle 17. C'est ça.
C'est ça, oui, à peine 17. Oui.
Voilà. Mais ça montre une constance remarquable. Et... voilà. Alors, il y a vos parents, donc vous le disiez, étaient pianistes. Votre maman était cantatrice.
Mon père, oui, il était musicien. Il était directeur d'un conservatoire.
Voilà. Et votre maman faisait un quart d'heure d'émission.
Elle était cantatrice. Un très joli programme par mois à Radio Paris. C'était avant la guerre. Un programme de mélodie, et elle était toujours accompagnée par les plus grands pianistes du moment, qui étaient également compositeurs, soit Jean Doyen, Louis Betz, enfin c'était des gens très très connus, avec Tony Aubin, enfin les grands compositeurs. Oui. Et alors, elle a été une des premières à faire de la télévision, et comme elle m'emmenait partout... la télévision, on était aux essais à cette époque-là, ça se passait, je crois que c'était du côté de la Tour Eiffel, les studios.
Reconnaît-je?
C'est possible, je ne sais pas, j'étais petite. Et ce qui me frappait le plus, c'est qu'elle est maquillée tout en jaune pour passer, elle se passait en noir et blanc. Alors elle maquillait tout en jaune et on lui maquillait les lèvres avec du noir. Alors je vais voir maman comme ça, surtout qu'elle était toute jeune, ma mère, hein, elle avait que 17 ans plus que moi, 17 ans et demi plus que moi. Alors et c'était assez curieux, enfin c'était mes premiers essais. J'ai d'ailleurs gardé des programmes de ça, je les ai toujours à la maison. C'était à peu près à la même époque où je chantais les chansons du film La Maternelle avec Madeleine Renaud, qui à l'époque était une grande vedette de cinéma, mais aussi une grande actrice de la comédie française.
Voilà, et alors vous m'avez dit aussi que Yvette Guilbert, alors qui est très connue pour son tableau de Toulouse-Lautrec, puisqu'on la voit avec ses gants noirs, on ne savait pas, elle avait fait une chanson dont on n'a pas retrouvé le disque pour cette émission, mais c'est Madame Arthur, etc.
Qui parlait de longtemps.
Mais apparemment, elle n'était pas seulement cette artiste de variété, puisqu'elle animait un cercle de Schubertiade.
C'était pas une artiste de variété, c'était une artiste tout court. Hein. Les artistes de variété, c'est une invention de maintenant. C'était une très grande artiste, comme était Damia, comme était Marie Dubas. À l'époque, c'était des femmes qui étaient aussi comédiennes, qui étaient diseuses, qui avaient un salon littéraire. Yvette Guilbert, elle avait créé un cercle qui s'appelait la Boîte aux Gants Noirs, dans laquelle il y avait des chanteurs, des écrivains, des poètes de l'époque, des musiciens, des pianistes, des compositeurs, enfin c'était tout ce qu'il y avait de mieux. Et leur idée, c'était de mettre le pied à l'étrier de jeunes artistes. Il y avait Colette aussi là-dedans, je me souviens.
Et vous souvenez des pieds de Colette, paraît-il.
Oui, parce que moi j'étais petite, puis à l'époque elle avait les pieds nus dans les sandales. Ça me fait du gâche. <fait. rire> Et voilà. Et alors, leur but, c'était de mettre le pied à l'étrier de jeunes artistes, comme était mon père en tant que pianiste et ma mère qui accompagnait ma mère à l'époque. Voilà. Et alors, ils se réunissaient comme ça, c'était très agréable.
Très très bien. Alors,
Yvette Guilbert, il y a encore des enregistrements qui existent.
Oh, oui, oh,
sûrement, sûrement, oui,
certainement,
on a pas
certainement
suffisamment cherché par manque de temps.
Il y a Madame Arthur, il y a le fiacre, vous savez, un fiacre à
les trottinants qui a trompé par Jean Sablon. Très bien. Et donc, coup de cœur suivant, Chopin. Et Chopin, vous me dites, une valse, et dans les artistes, d'Inulipati. Alors, voilà, pourquoi la valse? Pourquoi Chopin? Pourquoi d'Inulipati?
Parce que d'Inulipati est un de ceux qui a très très bien compris Chopin. Il le joue d'une façon extraordinaire, sans pathos, sans rien. Parce que Chopin, Henri Bucer me disait qu'il avait très bien connu Ambroise Thomas, et Ambroise Thomas avait travaillé avec Chopin. Bon. Et Chopin travaillait, Ambroise Thomas avait dit à mon beau-père, il lui avait dit, Chopin travaillait tout au métronome, pas des trucs qui partent dans tous les sens, tout au métronome. Quand il écrivait, au métronome, quand il jouait, au métronome, il travaillait au métronome. Et alors, l'inulipati, c'est ça, c'est la pureté de la phrase dans le tempo juste.
Très bien, nous l'écoutons dans la valse numéro 5 de Chopin. Valse numéro 4, pardon, de Chopin, interprété par d'Inulipati. Alors, ce sont les moments musicaux de l'Académie Clémentine sur RCF, et aujourd'hui, nous recevons Aurore Bucer pour écouter ses coups de cœur. Alors, Aurore Bucer, autre personne qui est importante dans vos amitiés pour notre vie cannoise, c'est Rosella Hightower.
Oui.
Je crois que vous l'avez bien connue et vous avez fait des choses ensemble.
Oui, bien sûr. D'abord...
Vous êtes l'administrateur de...
Oui, je suis administrateur d'école supérieure de danse. Mais je suis aussi administrateur de l'école régionale d'acteurs.
Et vous êtes aussi, puisqu'on a enfin tout ça, vous êtes musicologue, rattaché à l'Orchestre de Cannes.
Voilà. Toujours les trois choses.
Et... Donc avec Rosella Hightower, vous avez organisé beaucoup de festivals
C'est-à-dire que oui, je me suis pas mal occupée, enfin je m'occupe beaucoup de l'école, évidemment, j'ai beaucoup écrit sur cette école, il a fallu beaucoup les aider. Et elle, c'est une femme extraordinaire, j'ai beaucoup d'admiration pour elle. D'abord, elle a une culture et c'est une visionnaire, c'est une femme absolument étonnante et une très très grande artiste. Elle a été quand même aussi directrice de la danse à l'Opéra de Paris, il ne faut quand même pas oublier. Elle a été directrice de la danse à la Scala de Milan, ce qui lui a moins plu, mais enfin, à l'Opéra de Paris, c'était très bien. Parce qu'à l'escalade de Milan, ils sont toujours en grève, alors ce n'était pas très agréable. Et oui, c'est une très très grande amie. Quand il a fallu créer le festival de danse, alors bon, bah, c'était... enfin, elle a fait... on a fait appel à moi, et puis elle, elle en est toujours d'ailleurs la, comment dirais-je, la présidente d'honneur.
Voilà, alors le festival, festival de danse se déroule à quelle époque, dans quelles conditions?
Alors le festival de danse se déroule tous les deux ans, au mois de fin novembre, début décembre.
Et alors le prochain c'est...
Alors le prochain c'est donc en 2009.
2009.
Parce que là c'était 2007,
2007
le dernier.
C'est très une référence passé. Parce que vous faites venir des compagnies...
Oui, enfin beaucoup de des compagnies de très très loin, et beaucoup de compagnies contemporaines, puis aussi naturellement des grandes compagnies classiques, mais plutôt beaucoup de contemporaines.
Alors vous avez également participé au Café Théâtre.
Au festival de café-théâtre, oui, avec Jean-Pierre Cario, ça c'était pas facile à Cannes, c'était difficile. C'était un festival de café-théâtre qu'il a voulu créer ici. Ça a été très très difficile à partir. Mais finalement, maintenant, c'est devenu le festival performance d'acteurs. Je trouve pas ça tellement juste, mais enfin bon, il a fallu changer le nom. Et ça marche très très bien.
Oui, c'est devenu...
malheureusement, Jean-Pierre Cario nous a quittés très jeunes. Voilà, et il a été remplacé par Fabrice Laurent, qui est quelqu'un de très très bien.
Vous disiez difficile
Au point de vue public, ça a été
c'est
très...
C'est ça, voilà.
Il n'a pas trouvé son public tout de suite à Cannes, ça a été très très difficile. C'était pas le genre des Cannois. Et puis finalement, ils sont venus petit à petit parce que bon, on en a parlé. Moi, j'ai écrit dessus. J'ai eu un travail de Romain. Il fallait créer une sorte d'ambiance.
Vous pensez qu'il y a un public particulier pour ce...
Pour le Café Théâtre, oui, il y avait un public particulier.
La jeunesse?
La jeunesse, pas forcément. La jeunesse, pas forcément. Pas forcément. Pas forcément, non. Plutôt les gens de entre 25 et 35 ans.
Et les jeunes quand même.
Moi, je pensais à la jeunesse. Oui.
Alors vous nous avez...
Mais maintenant c'est parfait, c'est bien. Oui, maintenant c'est bien, marche bien.
Ça roule bien, oui, c'est un succès populaire.
Oui, oui, absolument.
Les spectacles sont pleins.
Oui, mais puis c'est pas du tout le même public que les spectacles de sortir à Cannes. C'est pas du tout le même public. Ils viennent pas tous de Cannes d'ailleurs. Il y a des gens qui viennent d'un peu loin. C'est pas le même public non plus que Made in Cannes. Made in Cannes, beaucoup plus jeune. C'est pas le même public qu'au Théâtre Alexandre III, qui est un excellent public au Théâtre Alexandre III. Excellent public.
La compagnie 73.
Oui. Maintenant, il a passé la main, mais le public est toujours là. Et la programmation est excellente. C'est un excellent public.
Il se passe beaucoup de choses à Cannes.
Beaucoup de choses parce qu'il y a eu des gens pour les mettre sur pied et pour en parler. Et il y a eu des gens pour en parler.
Voilà. Alors, vous, à propos de paroles, on était là de notre programmation, comme on dit, mais on n'a pas de voix. Alors, on va compenser ce manque. Et on va revenir donc à Schubert, votre préféré, et avec le Winterreise. Alors, quelques mots sur ce voyage d'hiver.
Alors, le voyage d'hiver, c'est un cycle de leaders qui sont absolument sublimes, et qui contiennent une philosophie de la vie, une philosophie du romantisme, une philosophie de Sturm und Drang, tout ça. Et c'est un très très beau cycle, mais qui n'est pas forcément triste.
Voilà, alors le baryton est Thomas Hampton, le pianiste est Wolfgang Sawallisch, qui accompagne souvent Schubert, un magnifique disque de Margaret Price avec Sawallisch, donc dit Wetterfahne.
Haus. Da dachte ich schon in meinem Wahn, sie pfiff den armen Flüchtling aus. Er hätte es ihr bemerken sollen, des Hauses aufgestellte Schild, so hätte er nie mehr suchen wollen im Haus ein treues Frauenbild. Der Wind spielt drinnen mit den Herzen wie auf dem Dach, nur nicht so laut. Was fragen Sie nach meinen Schmerzen? Ihr Kind ist eine reiche Braut. Der Wind spielt drinnen mit den Herzen wie auf dem Dach, nur nicht so laut. Was fragen Sie nach meinen Schmerzen? Was fragen Sie nach meinen Schmerzen? Ihr Kind ist eine reiche Braut.
Voilà, eh bien, j'ai aussi noté que vous, très timide, paraît-il, enfant, jeune fille, vous avez forcé votre timidité en prenant des cours au cours Simon.
Oui, les cours de théâtre. C'était pas enfant, c'était... Enfant, j'étais timide, mais enfin, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais... C'était plus tard, lorsque justement je travaillais dans l'édition, et il fallait que je me trouvais en face de gens extraordinaires. J'étais terrorisée à l'idée de les faire travailler, puisque j'étais rédactrice en chef d'une revue.
Il y avait de grands avocats dans cette
revue.
Oui,
il y avait Maître de Moruggia Ferri, il y avait Paul-Émile Victor, il y avait Bernard Gavotti qui était jeune. Il était pas beaucoup plus vieux que moi. Il y avait des gens extraordinaires. Je me suis dit, jamais je pourrais leur demander quoi que ce soit. Alors j'ai eu l'idée d'aller chez notre ami René Simon, qui était aussi professeur au conservatoire, professeur d'éloquence en Sorbonne. Enfin, c'était... Et bon, il m'a prise en main, il m'a dit, on va voir ce qu'on va faire. Et il m'a fait travailler des rôles, il fallait avoir du toupet, les rôles d'Elvire Popesco, les choses comme ça. Il fallait se projeter en avant. Voilà. Ouais. J'étais dans la même promotion que des gens aussi, que Jean-Laurent Cochet, qui est quand même... Jean-Pierre Cassel, il y avait Higelin, il y avait Jacques Perrin,
oui.
Marcel Bozuffi, qui est mort très jeune, qui me donnait la réplique, enfin c'était... Voilà.
Et dans votre famille, vous aviez également Françoise Roset qui...
Oui, Françoise Roset, oui, Françoise Roset était là... la cousine germaine de mon mari, leur mère était sœur.
Voilà, et elle faisait des émissions pour les femmes depuis l'Afrique du Nord.
Alors, non, pour les femmes allemandes. Françoise Roset, c'est une personne tout à fait extraordinaire, c'est une très très grande actrice, et surtout à cette époque-là, elle avait une renommée dans le monde entier. Et elle s'est trouvée... Et elle parlait allemand couramment. Elle était très, très, très cultivée aussi. Elle parlait allemand, elle parlait russe, elle parlait plusieurs langues. Et surtout l'allemand, parce qu'elle avait toujours été en vacances avec ses cousins. Elle avait été en vacances en Allemagne, chez des gens. Alors évidemment, elle parlait très, très bien l'allemand. Et pendant la guerre... Elle a eu l'idée de s'adresser aux femmes allemandes. Elle les haranguait pour leur dire pique-pan de Hitler et de toute sa tribu. Et évidemment, Hitler lui-même a mis sa tête à prix. Il a dit « Trouvez-moi celle-là ». Elle faisait ça depuis l'Afrique du Nord.
Voilà, bah heureusement, elle était hors d'atteinte. Très bien. Alors maintenant, on voulait... passer un petit peu, continuer dans la voix et passer un peu d'opéra. Nos ressources n'étaient pas... mais on a trouvé une Orphée Eurydice que je vous propose d'écouter.
De Gluck.
Thank you.
Alors, Aurore Busser, vous qui appréciez les chanteurs, les acteurs, la musique, l'opéra, c'est l'art complet,
total. Oui, total, parce que... En fait, c'est l'éventail de tous les arts. Vous avez la musique, évidemment, avec l'orchestre. Vous avez le chant, vous avez le théâtre avec les chanteurs et l'expression théâtrale. Vous avez la danse avec les ballets qui sont dedans. Et puis, vous avez aussi les arts plastiques. Vous avez les décors, hein, quand on sait. Alors, tout de même, il faut aussi se dire qu'il y a l'opéra, puis il y a aussi le ballet. Parce que toutes les grandes partitions du XXe siècle ont finalement été écrites par le ballet, pour le ballet, que ce soit le Sacre du Printemps, Daphnis et Chloé, l'Après-midi d'un faune, le Mandarin merveilleux, tout ça. Puis vous avez vu quand même les grands peintres qui ont fait des décors, et puis que ce soit Picasso, Braque, en fait, tout ça. Hongrie, enfin tout.
Nous arrivons.
Enfin, l'opéra, c'est encore plus davantage.
Nous arrivons un peu vers la fin de cette deuxième émission, malheureusement. Et je voudrais revenir à votre parrain, beau-père, grand-père, Henri Busser, et rappeler qu'il a fait une messe de Don Rémy. Qui, curieusement, est beaucoup plus connue en Angleterre qu'en France.
C'est pas qu'elle est plus connue, c'est qu'elle est plus jouée.
Elle est plus jouée.
Oui, c'était une belle revanche pour Jeanne d'Arc.
Voilà. Et comme il a vécu 101 ans, 102 ans, on le répétait tout à l'heure, vous m'avez appris qu'à l'âge de 99 ans, oui. Il a composé une messe à Saint-Bertrand de Comminges. Alors, oui, ça prouve qu'on peut faire des centenaires créatifs.
Oui. Mais il est le seul académicien qui ait fait son discours de centenaire debout et en pleine forme. Jusqu'ici, les centenaires d'académiciens, qui étaient assez rares quand même, ils étaient célébrés dans leur appartement. Lui, il était à l'Institut, il y avait un concert, il a eu pour ses 100 ans, évidemment, énormément de cérémonies qui l'ont honoré. Voilà.
Alors, je ne voudrais pas qu'on se quitte sans réécouter un petit peu de sa musique, non pas une orchestration de lui, puisqu'il a orchestré la petite suite de Debussy. Et je vous propose d'écouter le ballet final, qui est très enlevé et qui devrait être plaisant. Henri Bussert. Aurore Bussert, il me reste à vous remercier d'avoir accepté notre invitation à participer à ces deux moments musicaux successifs. Nous avons été très honorés de vous recevoir. J'espère que vous avez passé un bon moment et nous vous remercions pour toutes ces belles musiques que vous nous avez fait découvrir.
Et moi, je voudrais dire qu'on avait eu beaucoup de chance parce qu'on a écouté Aurore Bussert au lieu de la lire. Et que je pense que maintenant, quand on lira Nice Matin et qu'on verra la signature Aurore Bussert sous un papier, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, on ne le lira pas de la même manière, et je le pense sincèrement. Alors, merci beaucoup.
Gentil. Alors, on a oublié de parler, de dire que vous étiez administrateur de Symphonio, puisque vous voulez promouvoir les jeunes talents, que vous aviez, avec Philippe Binder, créé les concerts ballets, que vous aviez également été à l'initiative d'un festival de chants sacrés, qui s'est tourné à Pâques, et qui malheureusement...
Il faudra revenir le mois prochain, je crois.
Peut-être. Alors, nous allons nous quitter avec un autre de vos coups de cœur. On ne pouvait pas ignorer Beethoven. Et là, ça a été spontané aussi, c'est la septième. Oui. Voilà, alors on va écouter le deuxième mouvement, que j'aime aussi beaucoup. On a l'impression de ce cœur qui palpite, c'est magnifique.
Aurore, c'est universel, ça.
Très, très bien. Aurore, au revoir et merci encore.
Merci.